Chers amis, bonsoir. Bienvenue dans les pratiques en vidéo de l'Institut culturel Quetzalcoatl. Merci beaucoup pour toutes vos remarques. Nous allons commencer notre thème d'aujourd'hui. Il s'intitule « Nécessité et cupidité ». Il est très important, mes amis, que nous réfléchissions sérieusement à ce thème sur la nécessité et la cupidité. Il est primordial que nous découvrions jusqu'où va notre nécessité et où commence notre cupidité en nous-mêmes. Pour parler de cela, nous ne pouvons pas omettre de voir ce que l'argent représente, parce qu'il a pris une grande importance dans notre vie. Dépendons-nous seulement de l'argent pour notre bonheur psychologique? Tous les êtres humains ont besoin de pain, de vêtements et d'abris, tout le monde le sait. Mais pourquoi cela, qui est si naturel et si simple, même pour les oiseaux du ciel, a une signification et une importance si grande, si terrible et si épouvantable chez nous autres, les êtres humains? La réponse est la suivante. L'argent est devenu une valeur exagérée et disproportionnée, parce que psychologiquement nous dépendons de lui pour notre propre bien-être. L'argent alimente notre vanité personnelle. Il nous donne du prestige social, il nous donne les moyens d'avoir du pouvoir. L'argent a été utilisé par notre mental à des fins et des propos complètement différents de ce qu'il a par lui-même. Celui de couvrir nos nécessités physiques immédiates. L'argent est en train d'être utilisé à des fins psychologiques. Voilà la cause. Voilà pourquoi l'argent a une importance exagérée et totalement disproportionnée. Nous avons besoin d'argent pour acheter du pain, des vêtements et un abri, c'est évident, mes chers amis. Mais lorsque l'argent devient une nécessité psychologique, lorsque nous l'utilisons à des fins diverses différentes de ce qui devrait être, lorsque nous dépendons de lui pour obtenir la gloire, le prestige, une position sociale, etc., etc., alors l'argent a, dans notre mental, une importance exagérée et disproportionnée, et c'est ainsi que naissent les conflits et les luttes pour le posséder. C'est vrai que nous en avons besoin pour satisfaire nos besoins physiques, mais si nous dépendons de l'argent exclusivement pour notre propre bonheur et notre satisfaction personnelle, alors nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Lorsque nous comprendrons profondément que l'argent n'a pour but que de nous donner du pain, des vêtements et un abri, alors, immédiatement, nous lui donnerons une limite intelligente. Le résultat sera que l'argent n'aura plus pour nous une importance si exagérée qu'il a lorsqu'il devient une nécessité psychologique. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais, mes amis. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Si nous l'utilisons pour le bien, alors il est bon. Mais si nous l'utilisons mal, eh bien il devient mauvais. Nous devons donc comprendre à fond la véritable nature de la sensation et de la satisfaction. Le mental qui veut comprendre la vérité doit être libéré de ses chaînes. Si nous voulons vraiment libérer la pensée des chaînes de la sensation et de la satisfaction, nous devons donc commencer par ces sensations qui sont pour nous plus familières et établir là le ciment adéquat pour la compréhension. Nous devons comprendre que les sensations sont là où elles sont, et lorsque nous les comprenons profondément dans tous les niveaux de notre mental, alors elles ne sont plus déformées comme elles le sont en ce moment. De nombreuses personnes pensent que si toutes les choses allaient en accord avec le groupe politique à laquelle elles appartiennent et pour lesquelles elles luttent sans arrêt, alors on aurait un monde rempli d'abondance, de paix, de bonheur, de perfection. Mais mes chers amis, en vérité, c'est un faux concept, parce que rien de cela ne peut exister si nous n'avons pas compris d'abord, individuellement, la véritable signification des choses. Nous, les êtres humains, sommes vraiment très pauvres intérieurement. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'argent et de beaucoup de choses pour nos sensations, et nos satisfactions personnelles. Quand une personne est pauvre intérieurement, elle recherche l'argent comme complément et recherche la satisfaction. C'est pourquoi l'argent et les choses matérielles sont devenues des valeurs disproportionnées et que les êtres humains sont prêts à voler, à tuer, à exploiter, à mentir à chaque instant pour les obtenir. Voilà la cause de la lutte entre le capital et le travail, entre patrons et ouvriers, entre ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités, etc., etc. En vérité, mes amis, tous les changements politiques sont inutiles si nous n'avons pas compris d'abord que nous avons une pauvreté intérieure. Les systèmes économiques peuvent changer, les systèmes sociaux peuvent changer aussi. Mais si nous n'avons pas compris profondément la pauvreté de notre intérieur, nous n'arrêterons pas de trouver les moyens pour nos satisfactions personnelles aux dépens de la paix d'autres personnes. Il est urgent donc de comprendre vraiment la nature intime de notre moi-même si réellement nous voulons être riches intérieurement. Celui qui est riche intérieurement est incapable d'exploiter son prochain. Il est incapable de voler, de mentir, de tuer. Celui qui est riche intérieurement est libre des chaînes de la sensation et de la satisfaction personnelle. Celui qui est riche intérieurement a trouvé le bonheur, la joie. Nous avons besoin d'argent, c'est vrai, mais il est nécessaire de comprendre profondément notre juste relation avec lui. Ni l'ascète, ni l'avare cupide n'a vraiment compris sa juste relation avec l'argent. Ce n'est pas en renonçant à l'argent, ni en l'accumulant, que nous pouvons arriver à comprendre notre juste relation avec lui. Non, mes amis, nous devons comprendre, pour nous rendre compte avec intelligence, quelles sont nos propres nécessités matérielles sans dépendre de l'argent de façon disproportionnée. Lorsque nous comprenons notre juste relation avec l'argent, alors se termine la douleur du détachement et la souffrance épouvantable que produit la compétitivité. Nous devons donc, mes amis, apprendre à différencier nos nécessités physiques immédiates et notre indépendance psychologique aux choses. La dépendance psychologique des choses crée l'exploitation et l'esclavagisme. Nous avons besoin d'argent, c'est vrai, pour couvrir nos nécessités physiques immédiates. Mais malheureusement, la nécessité se transforme en cupidité. Le moi psychologique se rend donc compte de sa propre vacuité et de sa misère, a l'habitude de donner aux choses et à l'argent des valeurs différentes de celles qu'elles ont réellement. Une valeur exagérée est absurde. Voilà comment le moi, notre moi, veut s'enrichir extérieurement, puisqu'intérieurement il est pauvre et misérable. Le moi veut se faire valoir, éblouir les autres avec les choses et avec l'argent. De nos jours, notre relation avec l'argent se base sur la cupidité. C'est pour cela que nous pensons avoir besoin de plus de nécessités pour pouvoir justifier notre cupidité. La cupidité, mes chers amis, est la cause secrète de la haine et des brutalités dans le monde. Ces dernières se cachent très souvent derrière des motifs légaux. La cupidité est la cause de la guerre et de toutes les misères de ce monde dans lequel nous vivons. Si nous voulons que cette cupidité dans le monde cesse, nous devons comprendre profondément que ce monde se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes le monde. La cupidité des autres individus se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Réellement, tous les individus vivent à l'intérieur de notre conscience, de notre propre conscience. Nous comprendrons donc que la cupidité du monde est à l'intérieur de l'individu. Ce n'est qu'en l'absence de cupidité à l'intérieur de nous que nous en finirons avec la cupidité dans le monde. Ce n'est qu'en comprenant ce processus complexe de la cupidité dans tous les niveaux de notre mental que nous pourrons arriver à expérimenter la grande réalité. Le système économique dans lequel nous vivons nous a créé des nécessités qui, si elles ne sont pas comblées, mes chers amis, n'auront aucun effet sur nous. Il ne se passera rien. Réellement, l'être humain peut très bien vivre. S'il met de côté toutes ses nécessités superflues, les parfums, les maquillages, les cosmétiques, les vêtements de marque, les appareils électroniques sophistiqués, dont nous n'utilisons même pas toutes les fonctions, les accessoires automoteurs, les loisirs dégénérés, les boissons énergétiques, etc., etc. Souvenez-vous, mes chers amis, que celui qui possède tout n'est pas heureux. Par contre, est heureux celui à qui il ne manque rien. Nous allons maintenant commencer notre pratique. Mettons de la musique classique tout doucement. Si nous voulons, nous pouvons nous allonger en prenant la position de l'étoile, en ouvrant les bras et les jambes à droite et à gauche. Et si nous ne pouvons pas le faire, eh bien nous pouvons rester assis pour faire cet exercice. Fermons les yeux et faisons des respirations profondes. 1. Deux, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux, un. Deux, un, deux, un, deux. Bien, mes amis, maintenant nous allons relaxer notre corps et notre mental. Mettons toute notre attention sur la musique que nous avons mise au début de notre pratique, chacun chez nous. Laissons ces notes ineffables inonder toutes nos cellules cérébrales, nos atomes, nos molécules, et ressentons comment, au fur et à mesure que ces notes inondent tout notre corps et notre mental, nous nous relaxons peu à peu, tout doucement, tout doucement. Passons maintenant, mes chers amis, à la concentration. Souvenez-vous que si notre exercice de concentration et de méditation intérieure est correct, nous verrons en vision intérieure quelles sont nos réelles nécessités et où et quand commence notre cupidité. Ce n'est qu'en comprenant profondément la nécessité et la cupidité que nous pourrons établir des bases véritables pour un processus correct de la pensée. Concentrons-nous maintenant sur nos propres nécessités physiques, immédiates. Maintenant, mes chers amis, méditons, réfléchissons à chacune de ces nécessités. essayons de découvrir par nous-mêmes quand s'arrête la nécessité et quand commence la cupidité en nous. Bien, mes amis, avec une respiration profonde, nous allons terminer notre pratique. 1. Deux. Nous pouvons ouvrir les yeux et bouger. Institut culturel Quetzalcoatl, www.samaelgnosis.net.